inquiétude au Zaïr où une maladie inconnue a déjà tué 800 personnes, des prélèvements effectués sur les victimes ont été envoyés à l'Institut de médecine tropicale à Anvers, en Belgique, ainsi qu'à l'Institut Pasteur de Paris.
Mécanique des épidémies.
Il reste à savoir, d'abord, si ce virus, si cet agent causal de la maladie est transmis, comme c'est souvent le cas en Afrique, par des piqûres d'insectes ou par des morsures de rongeurs. Et une fois qu'on aura cette preuve du mode de transmission de cette maladie virale, on pourra prendre des mesures de protection qui s'imposent aux Zaïres.
C'est l'archétype du virus émergent, apparu au moment même où l'humanité croyait maîtriser le péril infectieux. Ebola nous rappelle que malgré tous les progrès de la médecine, de nouveaux dangers peuvent survenir, défiant les meilleurs spécialistes de la lutte contre les épidémies. Ebola nous rappelle surtout que tout combat contre les pandémies est d'abord affaire de lien social, de confiance des populations. Dans cette 8e saison de Mécanique des épidémies, on vous emmène sur les traces d'Ebola et de sa sœur Marburg, une autre fièvre hémorragique. D'où viennent-elles ? Pourquoi elle tue si implacablement? Et surtout, comment s'en préserver? Comme il l'a fait pour le choléra, le Covid, la peste ou le sida, le médecin Renaud Piarot, chef de service à la Pitié-Salpêtrière, va vous guider dans cette enquête épidémiologique. Avec lui, comme auprès d'un détective, remontez le fil vers l'origine de ces fièvres hémorragiques au cœur de l'Afrique. Premier épisode, Ebola et ses sœurs, ces dramatiques fièvres hémorragiques.
Ebola est une maladie qui nous a surpris, et en particulier avec la grande épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest, qui a eu des conséquences redoutables pour au moins deux des trois pays touchés. Cette épidémie avait touché la Guinée-Conakry, la Sierra Leone et le Libéria. Et quand on regarde comment ces pays ont évolué, on voit que la Guinée s'en est pas trop mal sortie, elle a été moins touchée. Mais la Sierra Leone est vraiment dans une situation toujours 7 ans après d'effondrement économique et le Libéria dans une situation guère meilleure. C'est une épidémie qui a eu des conséquences bien plus larges que simplement le nombre de cas. Il y en a eu beaucoup dans cette épidémie, environ 28 000 cas et 12 000 décès. Mais les conséquences sont infiniment plus importantes. Et là, on s'aperçoit que des maladies qu'on considère comme extrêmement particulières, exotiques, comme peuvent l'être la maladie à virus Ebola, puis une autre maladie qui est sa petite sœur, qui est la maladie à virus Marburg, peuvent avoir un impact vraiment considérable en Afrique. Ça peut même concerner des villes en Europe, parce que le virus de Marburg a démarré justement dans cette petite ville en Allemagne, à une période où on pensait que les maladies virales, les maladies infectieuses en général, n'étaient plus un vrai problème. On est en 1967 et c'est vraiment la période d'euphorie où on pense que on a maîtrisé tout ça et on va voir émerger d'abord la maladie à virus de Marburg et quelques années plus tard, la maladie à virus Ebola. Alors Ebola est une maladie liée à un virus. Alors le virus a une forme un peu particulière, il est très allongé, en fait comme un fil, comme un spaghetti trop cuit. Comme tous les virus, il ne peut se reproduire qu'en rentrant dans nos cellules, les détruire et puis se multiplier. Dans sa multiplication, il va passer dans l'ensemble du corps. Il va aussi détruire les petits vaisseaux, les capillaires, et donc éventuellement entraîner des hémorragies. Alors je dis éventuellement parce que on parle bien sûr de fièvre hémorragique. Mais les aspects cliniques sont plus variés que ça et finalement, les syndromes hémorragiques majeurs sont minoritaires. L'incubation peut être assez rapide, 1 ou 2 jours, jusqu'à 21 jours. Et puis, les signes cliniques vont apparaître de manière un peu séquentielle. C'est d'abord de la fièvre, essentiellement, avec des maux de tête, avec des douleurs musculaires ou articulaires. Pour Marburg, un peu moins pour Ebola, il y a une petite éruption. Et puis, les patients présentent de la diarrhée, éventuellement de la diarrhée avec des pertes de sang et des vomissements. Et finalement, c'est cet ensemble de symptômes qui altèrent leur état général et qui fait que, dans environ la moitié des cas, le malade va mourir. À partir du moment où un malade a les premiers symptômes, soit il s'en sort au bout d'une dizaine, douzaine de jours, soit il meurt dans cette période de temps. Ce sont des maladies d'une létalité très importante. La létalité, c'est le nombre de décès sur le nombre de cas. Là, on est sur des létalités très importantes. Dans certaines épidémies, on est même à 90%. Donc, on est comparable à la létalité de la peste, par exemple. Donc, on peut dire qu'Ebola et Marburg sont un peu les pestes des temps modernes, à ce titre-là. Un point important qu'on a réalisé que très tardivement, c'est que même apparemment guéris, les malades présentent des signes cliniques qui peuvent être extrêmement invalidants et qui deviennent chroniques au niveau de la fatigue, des atteintes neurologiques, des atteintes oculaires, et puis il peut y avoir persistance du virus d'ailleurs dans l'œil, dans le cerveau, des douleurs évidemment. Et puis des symptômes plus neuropsychiatriques avec des syndromes post-traumatiques qui sont liés à cette peur et cette au fait qu'ils se sont trouvés dans des conditions extrêmement dures, y compris dans les centres de traitement. Ebola et Marburg sont des maladies alors qui sont essentiellement des maladies du soin, de la manière de prendre soin de l'autre d'abord, à l'intérieur des familles. C'est le contact proche, c'est les liquides, la sueur, le lait pour les femmes allaitantes. C'est au travers de ce contact proche qu'on peut se contaminer en se frottant les yeux, en ingérant le virus vraiment dans une contamination intrafamiliale. C'est aussi une maladie du soin, dans la mesure où, on va le voir dans les épidémies, la transmission à l'hôpital est quelque chose qui est assez fréquente, y compris dans des conditions où on a un mauvais usage, de, par exemple, des seringues qu'on utilise sans les stériliser. Donc, c'est des choses qu'on peut voir. C'est aussi une maladie du soin aux personnes défuntes et les cérémonies, surtout si elles sont avec un contact, si les gens touchent les morts, si les gens les embrassent, ça se passe comme ça souvent, il y a des risques de transmission qui sont vraiment très importants. Donc les cérémonies funéraires ont joué un rôle très important dans certaines épidémies, comme en particulier l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest. Ça a été un des moteurs essentiels de l'épidémie. Ce que Ebola ne fait pas, c'est de la transmission aérienne. Donc, c'est pas du tout une maladie qui pourrait ressembler à la grippe ou même dans les formes graves de la grippe, dans la mesure où c'est pas du tout les mêmes modes de transmission. L'arrivée des filovirus commence par une épidémie en plein été. On est au mois d'août. On est en Allemagne, donc on n'est pas du tout dans la forêt africaine. Dans cette petite ville de Marburg, arrive à l'hôpital une vingtaine de personnes, 14 hommes, 6 femmes, qui présentent une diarrhée qui, bon, l'été, avoir une diarrhée, c'est pas forcément très inquiétant. Mais un, ils n'ont pas voyagé, qui peut être un facteur favorisant. Et deux, cette diarrhée est plus grave, ils sont pas bien. Ils ont des vomissements, ils ont de la fièvre, ils sont mal, ils ont mal à la tête, ils ont des douleurs donc musculaires, articulaires, ils ont aussi cette éruption. L'évolution est défavorable pour 7 de ces patients. On s'aperçoit à ce moment-là que des cas similaires ont lieu à Francfort, 4 cas similaires, et puis surtout des personnes de l'hôpital se contaminent aussi. Et en tout, on va avoir comme ça une trentaine de cas en Allemagne, et puis 2 cas aussi en Serbie. Ce qui relie ces cas, c'est le fait de travailler dans un domaine très particulier qui est dans la production de vaccins de la poliomyélite. En fait, ils travaillent en Allemagne dans une firme qui est la firme Behring, et tous ont soit manipulé des singes, soit manipulé des organes et des tissus de singes pour cultiver le virus de la polio. Ce virus, à l'époque, on ne sait le cultiver que sur les cellules de reins de singes, de certains singes qu'on appelle les singes grivés. Et ces singes, en fait, on va s'apercevoir qu'ils viennent d'Ouganda. Et donc, on relie finalement cette épidémie à l'Afrique, à une zone forestière, parce que les singes sont dans les forêts, sans trop comprendre ce que ça peut être. Là, il va y avoir un travail extrêmement compliqué, mais qui a été couronné de succès, pour essayer d'isoler ce virus, de le mettre en évidence. C'est comme ça qu'on s'aperçoit que ce virus a une forme de fil. On parle de filovirus et apparaît donc cette maladie émergente qui est d'abord la maladie à virus de Marburg. Les premiers patients atteints, donc on sait que 7 d'entre eux sont morts, les autres sont vivants. Et on n'a pas trop d'informations sur la présence de signes persistants après. Enfin, c'est des choses difficiles. On sait quand même qu'un patient a communiqué la maladie à son épouse plus de 2 mois après avoir apparemment été guéri. Et donc, c'est là qu'on commence à se poser des questions sur une possible transmission sexuelle. On est en 1967 et il ne se passe rien jusqu'en 1976. Et en 1976, on va avoir une autre épidémie dans une région complètement différente. On est au nord de la forêt africaine, au nord du Zaïre. À l'époque, c'est le Zaïre, dans un endroit qui s'appelle Yambuku. Et dans cet hôpital-là, on va avoir une épidémie. Un premier malade arrive. On pensait que c'était le cas index, le premier cas. Mais en fait, il présente des signes de paludisme et il est traité dans ce centre. Et un autre malade arrive qui lui présente des signes extrêmement évocateurs de fièvre hémorragique, sauf qu'il part au bout de 2 jours, on ne sait pas ce qui devient. À mon avis, il n'est pas allé très loin, mais on n'a pas la suite. Mais le premier malade, lui, alors qu'il allait mieux, va rechuter sous une forme, effectivement, qui est beaucoup plus inquiétante, et il va décéder, on est au début du mois de septembre 1976. Et avec ce premier malade qui décède, d'autres commence à tomber malade dans ce centre. Petit à petit, on a une épidémie de maladies inconnues, un peu comme ça s'était passé à Marburg, sauf que là, la mortalité est beaucoup plus importante. Très peu de malades en réchappent. Et il va y avoir des missions successives, alors qui évoquent différentes maladies, le paludisme, la fièvre typhoïde. Mais manifestement, ça va pas. Ils finissent par envoyer des prélèvements un peu partout. Là encore, avec des risques de contamination. Et là, pour le coup, il y a contamination. Une personne dans un laboratoire au Royaume-Uni se contamine. Heureusement, s'en sort malgré le fait de s'être contaminé par le virus qu'on va appeler virus Ebola. Alors pourquoi on l'appelle Ebola et pas Yambuku ? C'est une idée des gens qui sont intervenus et qui ont considéré que ce serait stigmatisé. Alors Marburg, ça n'a pas posé problème, mais là pour Yambuku, ils ne voulaient pas stigmatiser. Alors ils ont donné le nom d'une rivière qui passait pas trop loin, mais à une 60aine de kilomètres de là quand même. Bon, c'est devenu le virus Ebola. Et cette première épidémie est une épidémie qui est catastrophique. Il y a plus de 300 cas et 80 et quelques pourcents de ces patients vont mourir. Donc c'est vraiment une épidémie extrêmement grave. En fait, elle va commencer vraiment à décliner quand l'hôpital va fermer. Et l'hôpital ferme parce que le personnel soignant de l'hôpital tombe malade et meurt de cette maladie pour la majorité d'entre eux. Pourquoi l'hôpital a été ce point de transmission ? Dans les enquêtes qui ont été faites, on apprend que cet hôpital, un hôpital de 120 lits, dispose de 5 seringues en verre et des aiguilles pour faire les injections. Ils font beaucoup d'injections, ils font des injections pour soigner le paludisme, ils font des injections pour donner des vitamines aux femmes enceintes. Donc des injections à répétition, sans stériliser la seringue, des fois sans même la rincer. Et qui ont été à l'origine de la transmission dans ce cas-là. Après, il y a eu des transmissions de malades qui sont rentrés chez eux et qui ont contaminé autour d'eux. Mais essentiellement, le moteur de l'épidémie, là, ça a été ces injections. Et donc, on a cette épidémie particulièrement grave. Au même moment, à quelques centaines de kilomètres de là, Une autre épidémie a lieu. Là, on est dans une fabrique de coton. C'est les ouvriers de la fabrique de coton qui sont essentiellement touchés. Et là, on est dans un contexte déjà différent, puisque on est face à des ouvriers qui sont contaminés. Ils travaillent dans des hangars, et les hangars servent aussi de refuge à des chauves-souris. Et donc, ils sont exposés au guano de chauves-souris. Et on pense que c'est probablement ça qui a entraîné la maladie. Sur Yambuku, on n'a pas du tout ça. Et en fait, on va s'apercevoir que ce sont deux virus différents. Les deux vont être appelés virus Ebola. Le premier, Ebola Zaïr. Le deuxième, Ebola Soudan. Et c'est comme ça qu'on a l'émergence, en quelques années, du virus Marburg et déjà de deux virus Ebola, Ebola Zaïr et Ebola Soudan.
Avec l'apparition de ces premiers filovirus, la communauté scientifique commence à se mobiliser. Aux côtés du médecin Renaud Piaroux, vous allez comprendre dans le prochain épisode comment, en 35 ans, l'enquête épidémiologique avance dans la connaissance du réservoir animal à l'origine d'Ebola et de Marburg.
Immédiatement après l'épidémie de Yambuku et même au moment de cette épidémie, il y a eu une vague recherche qui a été faite. On ne savait pas trop où chercher, mais bon, les investigateurs ont quand même capturé des moustiques, capturé des punaises de lit. Ça, c'était assez facile. Quelques chauves-souris, quelques animaux dans la forêt. Ils n'ont rien trouvé. Ils ont dû s'en tenir là. Il n'y avait pas de crédit pour pouvoir faire cette recherche. On a un cas de contamination au laboratoire en 1990, virus Marburg, en Russie, dans un laboratoire militaire. On aura d'ailleurs en 1996 un nouveau cas de contamination dans un laboratoire militaire en Russie. Là, ce sera le virus Ebola. Et on aura encore la même chose en 2004. Mais c'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre quel était l'intérêt qu'on pouvait avoir pour ces virus qui, par ailleurs, ne posaient pas de problème.
Deuxième épisode. Enquête vers la source des filovirus.
La situation change dans les années 90, à partir de 1994. Mais là, on va faire un voyage de plusieurs milliers de kilomètres et on arrive au Gabon. Et au Gabon, on va avoir une série d'épidémies. Ce n'est pas des grosses épidémies de quelques dizaines de cas jusqu'à 100 et quelques cas. Au Gabon et un petit peu en République du Congo, voisin. Et à chaque fois, on a cette notion de grands singes, chimpanzés ou de gorilles qui sont malades et éventuellement que les gens vont récupérer. Par exemple, dans une petite épidémie qui a lieu en 96 dans un petit village, c'est les adolescents, en quelque sorte, qui vont chasser et qui trouvent un chimpanzé mort et ils le dépècent pour se faire un ragoût de chimpanzé. Et on va avoir tous ceux qui ont participé au dépeçage vont tomber malades, quelques personnes autour. Voilà le type d'épidémie qu'on va trouver. Sinon, c'est des épidémies avec des forestiers, donc des chercheurs d'or. Une fois, ça finit par arriver à l'hôpital, avec une transmission à l'hôpital. Mais à chaque fois, quand même, ça démarre par ces histoires de chimpanzés ou de gorilles qui sont morts. Donc, il y a des premiers travaux qui sont menés dans les années 2000 sur ces épidémies du Gabon et de la République du Congo qui montrent qu'elles sont accompagnées de fortes mortalités chez les grands singes. Quand je dis forte mortalité, il y a même un article qui parle de 5000 gorilles qui sont morts et qui met en évidence, dans les groupes qu'ils ont étudiés, de 90 à 95% de mortalité. Autrement dit, il y a un effondrement complet de certaines populations de gorilles et des choses probablement similaires chez les chimpanzés. Est-ce que le virus voyage de groupe de singes à groupe de singes ou est-ce que un autre animal qui va jouer le rôle de réservoir, celui qui détient le virus en permanence, peut jouer un rôle. Ce qui va contre le fait que les grands singes soient le réservoir, c'est d'abord qu'ils meurent en très grande quantité. Quand un virus se trouve chez un hôte qu'il tue, il n'a plus de porte de sortie, ou il en a beaucoup moins. Donc il faut qu'il puisse rester en permanence chez certains hôtes. La deuxième chose, c'est que la forêt africaine est traversée par des fleuves, est traversée par des très grandes rivières, et on n'a pas de voyage de singes qui puissent aller, par exemple, d'un côté à l'autre du fleuve Congo. On sait par exemple chez les chimpanzés qu'on n'a pas les mêmes espèces au sud et au nord du fleuve Congo. Donc ce sont des arguments pour penser qu'il y a quelque chose qui est capable de voler au-dessus des fleuves et de porter le virus en permanence. C'est donc ça qu'on va chercher, c'est un réservoir à la fois pour le virus Marburg et pour le virus Ebola. C'est déjà une première piste, mais ce qui est intéressant, c'est que dans d'autres cas, on va avoir des épidémies pour lesquelles on ne trouve pas la cause.
Kikwit, c'est dans cette ville donc de 600 000 habitants, située à l'est du Zaïre, qu'une mystérieuse épidémie se répand depuis quelques semaines. Elle aurait déjà fait entre 50 et 100 victimes, selon les sources, dont deux médecins et quatre religieuses britanniques.
1995, au sud de la République démocratique du Congo, donc on est à nouveau à quelques milliers de kilomètres, on a une épidémie, c'est un paysan qui va un peu défricher, on est près d'une ville qui s'appelle Kikwit, et le paysan va défricher un champ, va faire du charbon. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce cas-là? On ne sait pas trop. Il tombe malade, des gens de son entourage tombent malades, petit à petit, ça va au centre de santé, un laborantin tombe malade, on pense qu'il a une fièvre typhoïde parce qu'il a de la diarrhée, il y a du sang et on se dit peut-être qu'il a une perforation intestinale. C'est quelque chose qui existe dans les fièvres typhoïdes et Kikwit est un endroit où il y a beaucoup de fièvres typhoïdes. Et donc on va l'opérer et là c'est la catastrophe parce que dans le personnel de l'hôpital, il va y avoir une soixantaine de personnes qui vont être, un peu plus même, qui vont être contaminées. 60 vont décéder de cette maladie qui se trouve être Ebola. Par contre, là, rien, absolument rien, on ne trouve pas, on ne sait pas comment ce premier paysan s'est contaminé. On est donc face à un mystère sur les contaminations, soit des populations de grands singes, soit des hommes. Ça, c'est autour du virus Ebola. Pour Marburg, on va tomber sur quelque chose d'un peu différent. On est toujours dans les années 90. Depuis quelques années, depuis 1993, on décrit au nord de la République démocratique du Congo, près de l'Ouganda, on décrit des cas de fièvre, on appelle ça la fièvre de Durba. Durba, c'est une petite ville minière, c'est des mines souterraines. Ces cas, il y a quelques dizaines de cas, il y a des morts, évidemment, beaucoup de morts. C'est pas signalé, et donc ça passe inaperçu. Personne n'y va. Mais en 1999, la situation s'aggrave, et là, il y a encore plus de cas qu'avant, il y a à peu près 150 nouveaux cas, et une mission quand même parvient à y aller. C'est compliqué, parce que c'est une zone qui est en guerre à ce moment-là. Le Zaïre est en train de devenir la République démocratique du Congo, mais la partie nord-est du Zaïre est occupée par des militaires ougandais. Là, on a une description qui est très intéressante par des médecins français. Et cet article fait une description de la vie de ces mineurs qui, en fait, vont dans la mine, vont essayer de récupérer un peu d'or et tout ça. Et c'est dans ce contexte-là qu'on va avoir des cas qui vont être des cas de fièvre de Marburg. Dans les mines, qu'est-ce qu'on trouve? Beaucoup de rongeurs et aussi beaucoup de chauves-souris. Donc on se dit, Marburg, chauves-souris, ça a l'air de tenir. Ebola, chauves-souris, peut-être, mais c'est plus compliqué. Marburg, par contre, là, on est allé beaucoup plus loin et on a réussi à démontrer le rôle réservoir de certaines chauves-souris. Et là, c'est une histoire un peu rocambolesque, puisqu'elle commence en Ouganda par le fait que quatre personnes travaillent dans une mine en Ouganda, la mine de Kitaka. Ces quatre personnes tombent malades, une meurt, et là, il y a une investigation internationale. Il y a des chercheurs des CDC d'Atlanta, il y a des gens de l'OMS, il y a des gens de différents endroits, et ils vont chercher. Alors là, cette recherche, quand même, chapeau, même c'est un peu téméraire, puisqu'il s'agit d'aller dans la grotte en question. Alors ils s'aperçoivent que cette grotte héberge une quantité phénoménale de chauves-souris, ils estiment à 100 000, essentiellement des roussettes d'Égypte, ça va être l'espèce qu'on va trouver réservoir. Et c'est des grottes où, en plus des chauves-souris, on va trouver, alors il y a du guano partout, évidemment. Il faut ramper à certains endroits, avancer en claquant des mains pour faire partir les chauves-souris. Il y a, sur les parois, il y a plein de tiques, puisque les tiques, évidemment, ont trouvé que c'est bien cet endroit très riche en chauves-souris. Et donc les chauves-souris ont leurs problèmes aussi. Et aussi des serpents, des cobras ou des pitons. qui, en fait, se nourrissent de chauves-souris. Ils sont très bien dans ce type de grotte. Et ils arrivent comme ça dans une salle, dans une partie de la grotte, où ils vont découvrir un carnage de chauves-souris. Beaucoup sont en train de mourir, d'agoniser. Certaines sont déjà plus ou moins momifiées, d'autres se liquéfient. Enfin, c'est franchement horrible. Ils collectent 800 chauves-souris vivantes, mortes. Ils vont les analyser. Et là, bingo, ils vont trouver qu'effectivement, non seulement il y en a qui ont des anticorps, il y en a qui ont de l'ARN, mais il y en a qui ont le virus vivant, et ils vont trouver comme ça 5 chauves-souris avec le virus vivant. Et en plus, ce virus vivant n'est pas tout à fait identique à chaque fois, donc c'est un élément très fort pour penser que les chauves-souris hébergent ce virus sur une période plus longue. Ils y reviennent quelques mois plus tard, et ils vont essayer d'avoir une idée de la population. Donc ils vont faire des captures, mettre des colliers aux chauves-souris et les relâcher dans la grotte. Ils repartent et à ce moment-là arrive un événement imprévu. C'est en Hollande. Une touriste hollandaise tombe malade. Elle avait voyagé avec son mari en Ouganda et elle a une fièvre de Marburg. L'enquête fait apparaître que dans son voyage, elle avait trouvé intéressant d'aller visiter une grotte qui n'est pas la grotte de Kitaka, mais qui est une autre, qui s'appelle la grotte du Piton, à une 50aine de kilomètres. Quand on va dans une grotte, surtout si on est un touriste et qu'on n'est pas protégé, autant les investigateurs mettaient des tenues de protection, autant les touristes ou les mineurs ne sont évidemment pas équipés de tenues de protection. Donc ils peuvent se contaminer soit avec une petite blessure en mettant la main sur du guano qui contiendrait le virus. L'autre possibilité, c'est que les chauves-souris les blessent aussi. On est dans des passages étroits, elles volent, elles peuvent toucher un peu le visage. Elles ont des petits ergots qui peuvent faire des blessures très légères, mais suffisante pour contaminer. Évidemment, nos investigateurs se disent « là, c'est quand même important, faut qu'on aille voir ». Donc, ils vont aussi dans la grotte du Piton. Effectivement, ils tombent dans une grotte à nouveau avec plein de chauves-souris. Là encore, un épisode de mortalité chez les chauves-souris. Et puis, des pitons qui sont là, enfin, qui peuvent faire, ils décrivent jusqu'à 6 mètres de long. Dans cet endroit-là, tout d'un coup, ils repèrent quelque chose qui n'est pas habituel. C'est un décollier qu'ils avaient mis quelques mois avant à des chauves-souris à 50 km de là. Et donc là, ils en déduisent que non seulement les chauves-souris, qui sont des roussettes égyptiennes, sont capables d'être porteurs du virus, mais elles sont capables de l'amener à d'autres endroits, parce qu'ils démontrent aussi qu'il y a le virus de Marburg dans cette grotte. Et donc là, on a vraiment une description de la source des épidémies de Marburg. On est dans des grottes, on est avec des chauves-souris, certaines espèces, en particulier la roussette égyptienne, qui sont le réservoir. Et puis, les premiers cas où chez l'homme ou chez les singes sont des contacts éventuellement avec chez chauves-souris, surtout des intrusions dans les grottes. Et puis ensuite, on peut avoir de la transmission. Il n'y a finalement qu'une chose à faire, qui paraît assez simple, ne pas aller se promener dans des grottes, surtout si elles sont infestées de chauves-souris, s'il y a des cobras et s'il y a des tiques partout sur les murs. Je pense que ce n'est pas une bonne idée. Moi, à titre personnel, je vais appliquer cette consigne. Et pour Marburg, finalement, on n'a plus trop de problèmes. Dans le cas d'Ebola, la situation reste quand même beaucoup plus complexe. On suspecte des chauves-souris, pas forcément les mêmes espèces, hein, parce qu'on a essayé de lui inoculer le virus Ebola, ça ne marche pas bien. Les recherches vont être menées essentiellement au niveau du Gabon et de la République du Congo. En fait, ça va être des piégeages d'un grand nombre d'animaux. Alors, on sait que les grands singes sont déjà touchés. Donc, ce qu'on va chercher, c'est plutôt des rongeurs et puis des chauves-souris. Il y a beaucoup de chauves-souris en forêt. Ces piégeages de chauves-souris vont ramener un premier résultat qui est publié dans une grande revue en 2005. L'équipe du Centre international de recherche médicale de Franceville, dirigée par Éric Leroy, va mettre en évidence qu'il y a, chez certaines chauves-souris, des anticorps contre Ebola. Et chez d'autres chauves-souris, d'autres individus, mais des mêmes espèces, des morceaux d'ARN d'Ebola. Ils ne trouvent pas le virus lui-même, donc on ne sait pas si c'est le réservoir, mais ces chauves-souris ont été en contact avec Ebola. Donc c'est une piste intéressante. Mais je rappelle que pour ces épidémies d'Ebola, on n'a pas trouvé encore d'évidence épidémiologique. Alors Éric Leroy va finir par trouver ça dans une autre épidémie qui aura lieu quelques années plus tard, où il mettra en évidence que le premier cas avait acheté une chauve-souris et que c'était des chauves-souris qui en plus étaient migratrices, capables d'aller d'un endroit à l'autre. Donc on a cet indice, mais ce n'est pas une preuve parce qu'on n'a toujours pas cette présence du virus vivant de manière pérenne chez quelques chauves-souris que ce soit. Donc on a pour Ebola quelque chose, on a une forte suspicion, mais on n'est pas arrivé à trouver exactement quel était le réservoir. En tout cas, là, on ne l'a pas démontré.
Le réservoir animal d'Ebola reste encore à découvrir. Ce qui est d'autant plus inquiétant qu'à partir des années 2010, des épidémies gravissimes se déclarent en Afrique, comme en décembre 2013, dans un petit village de Guinée.
On avait pris l'habitude d'épidémies en Afrique centrale, avec un nombre de cas qui allait au maximum à quelques centaines. Et on s'était dit, Ebola, bon, c'est lié à l'Afrique centrale et on est tranquille ailleurs.
Troisième épisode, Ebola 2013-2016, une crise sanitaire majeure.
Ça commence finalement dans une zone de forêt assez dégradée qui se trouve entre la Guinée-Conakry, la Sierra Leone et le Libéria. Les enquêtes montrent que le premier cas est un petit enfant. Il y a certains qui disent petite fille, d'autres petit garçon. Donc un enfant de 2 ans ou un petit peu moins qui se serait contaminé avec un contact avec un arbre creux où il y aurait des colonies de chauves-souris. On ne sait pas trop lesquelles parce que de toute façon, les habitants du village, entre-temps, ont brûlé l'arbre. Cet enfant tombe malade, fait plutôt une diarrhée, pense plutôt à du choléra ou quelque chose comme ça, mais rien n'est fait de spécial. Sa maman tombe malade, donc l'enfant meurt, la maman tombe malade, elle meurt, et comme ça on va avoir une transmission qui va petit à petit s'agrandir, agrandir le cercle des contaminations, arriver évidemment dans les hôpitaux, et puis des événements peut-être un peu plus importants. Un médecin meurt, il y a un enterrement qui amène beaucoup de monde et ça dissémine encore plus le virus. Le premier cas dans le petit village s'appelle Méliandou, a lieu en décembre 2013 et on s'aperçoit du problème en mars 2014. Ce qui est assez classique dans ces épidémies d'Ebola, parce que il faut du temps pour qu'on s'aperçoive qu'il y a un problème. Mais en mars 2014, comme on est face à une population beaucoup plus mobile qu'en Afrique centrale, dans les forêts où habituellement sévit Ebola, on a déjà des passages transfrontaliers au Libéria, il y en aura bientôt en Sierra Leone, et puis déjà plusieurs préfectures de Guinée-Conakry qui sont atteintes. On est dans une zone forestière, certes, mais une zone forestière qui est beaucoup plus habitée, beaucoup plus, on va dire, dégradée. Et puis, il y a des axes de circulation. On circule assez facilement. Et on peut, de ces endroits-là, aller assez facilement jusqu'à Conakry. Et peut-être même plus facilement encore jusqu'à Monrovia ou Freetown. C'est un contexte qui est déjà différent. Et puis, on a ces enterrements. Alors ça existe déjà en Afrique centrale, mais c'est encore plus important. Les cérémonies donnent des occasions plus importantes de contaminer. Donc autour des enterrements, effectivement, et des cérémonies qui sont faites à ce moment-là, on a ce qu'on appellerait maintenant des clusters de cas. On a de la transmission. Donc une épidémie qui finalement s'étend assez rapidement et va assez rapidement atteindre les villes, en particulier les capitales de ces trois pays. Malheureusement, ce sont des pays pauvres qui n'ont pas l'expérience de ce type d'épidémie. vont avoir beaucoup de mal à prendre les mesures qui permettraient de limiter la contamination, mettre en place le contact tracking, la recherche des cas secondaires. Et côté communauté internationale, ça bouge pas vite non plus. La gravité de la situation n'est pas prise en compte. Et l'épidémie, en plus, commence en Guinée. Enfin, la situation paraît vouloir s'améliorer au mois de mai-juin. En réalité, c'est en train de s'étendre. Et ça explose en plein milieu de l'été, juillet-août. Là, ça commence vraiment à exploser. Et tout d'un coup, l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, finit par réaliser qu'il y a un problème et décrète une urgence sanitaire de portée internationale. Mais ils vont mettre quand même, on est déjà en août, par rapport à une situation qui a commencé en décembre et qui a été repérée au mois de mars. À ce moment-là, dans les centres de soins, ils commencent à s'organiser, mais c'est pas évident. Et on va avoir, en particulier, beaucoup de contamination du personnel soignant. À la fin de l'épidémie, on parle de 500, 600 soignants qui sont morts. Donc, quelque chose d'extrêmement grave. Donc, ça veut dire que, avec ces soignants qui meurent, il y a moins de monde, d'autant plus que les autres sont pas très chauds pour aller travailler dans des endroits où leurs collègues meurent. Et donc, il va y avoir un problème d'accès aux soins et un problème de ressources humaines pour prendre en charge l'épidémie. En fait, l'épidémie est en train de déborder la réponse et les capacités de prise en charge. Alors, il y a la prise en charge médicale, mais on a quoi? On n'a rien. À ce moment-là, on n'a pas de traitement. Pas de traitement spécifique, pas de vaccin. On pourrait faire des traitements de type réhydratation, perfusion, etc. Mais le personnel est exposé pendant ces gestes et on est dans une situation qui est éthiquement très compliquée. Soit on expose le personnel, soit on abandonne les malades. Et là, on est dans quelque chose qui a été certainement très compliqué à gérer. Et puis, il y a la répercussion dans la population. C'est une maladie nouvelle, personne ne la connaît. Associé à cette maladie nouvelle, on a l'arrivée d'étrangers, en quelque sorte, ou d'étrangers même pouvant être des Africains qui viennent de la capitale et qui vont donc intervenir. Des personnes qui ne sont pas du village et qui arrivent dans des tenues de protection et qui vont chercher les malades. Il s'agit de faire le contact tracking, donc d'essayer d'identifier les malades. Ces malades sont amenés dans ces centres de traitement et beaucoup ne reviennent pas. Non seulement ils ne reviennent pas, mais on n'a pas de nouvelles. Les enterrements jouent un rôle très important dans la culture, dans l'acceptation de la mort. Et là, ces malades sont des fois enterrés complètement, indépendamment des familles. Ils ne savent pas ce qui est advenu des corps. Et on est dans un climat de suspicion qui va aller de plus en plus jusqu'à un climat d'hostilité. On a vraiment des embuscades qui sont montées contre les équipes d'intervention. Une équipe d'intervention de la Croix-Rouge, 8 personnes, va être assassinée dans un village parce que on considère que c'est eux qui ont amené le virus. D'ailleurs, ils arrivent, ils ont une tenue de protection complète et ils répandent quelque chose qui est une solution chlorée. Mais pour les habitants du village, ça peut être perçu comme étant, ils répandent le virus ou le sort. Enfin, c'est difficile de se le figurer, mais quelque chose, c'est eux qui répandent la maladie. Donc il y a cet aspect-là. Donc il y a une incompréhension totale et qui va monter et qui va rendre extrêmement compliqué la recherche des cas. Une bonne partie, j'ai lu à peu près un tiers des décès, interviennent finalement sans que le malade ait été repéré avant. Ça veut dire des rites funéraires non protégés et finalement une épidémie qui continue à se propager dans un climat de plus en plus lourd. Il y a aussi des manifestations, certaines peuvent être imposantes. On parle d'une manifestation dans un site de l'OMS, ils décrivent une manifestation de 3000 jeunes armés qui vont essayer de courser une équipe d'investigateurs, d'épidémiologistes de l'OMS qui arrive à s'échapper et se cacher en brousse pour éviter de se faire lyncher. Il y a un affolement généralisé. Et effectivement, ça vient très très haut puisque le secrétaire général de l'ONU vraiment appelle au secours Et les grandes puissances, en particulier les États-Unis, Barack Obama, décident là d'intervenir et envoient des milliers de soldats intervenants américains pour construire des centres de traitement. Il n'y en avait pas assez. Il y avait le nombre de nouveaux malades faisait en sorte qu'on ne pouvait pas héberger tous ces nouveaux cas. Il n'y en avait pas assez. Amène des moyens et finalement, alors que un certain nombre de prédictions extrêmement sérieuse, portée par le CDC d'Atlanta, le Center for Disease Control, ou par des publications dans des très grandes revues, annoncent qu'on va arriver vers plusieurs milliers de cas par semaine, voire même des centaines de milliers de cas, dira Barack Obama. Finalement, la situation va progressivement re-rentrer dans l'ordre. Il va y avoir des changements d'attitude pour essayer de mieux expliquer les interventions. C'est pas forcément, ils obtiennent pas forcément l'appui de la population, mais c'est beaucoup moins hostile et puis ça finit par se régler. Mais on a eu extrêmement peur. À ce moment-là, il s'est vraiment passé quelque chose où, d'ailleurs, on entendait parler dans les bulletins d'information. Il y a eu quelques malades en plus qui ont été transférés dans les pays européens, aux États-Unis. Il y a même eu une contamination d'un personnel soignant aux États-Unis même. Donc, vraiment une paranoïa, une psychose, puisque c'est les mots qu'on a dans la presse, c'est pas du tout les mots médicaux, mais une crainte qui a vraiment affolé le monde. Tout d'un coup, cette maladie qui était quelque chose d'exotique et un peu laissée de côté devenait un des principaux risques mondiaux vus par la presse. Médicalement parlant, quand même, le risque était quand même une diffusion à un plus grand nombre de pays en Afrique en particulier. On est passé quand même pas loin de la catastrophe au Nigeria. Un énorme pays, 180 millions d'habitants, même plus maintenant. Chaque fois qu'il y a une épidémie, on l'a très bien vu aussi avec la peste, évidemment, il y a des explications qui vont circuler. Alors, si la maladie est inconnue, si elle est mystérieuse, si elle tue beaucoup, on va avoir des explications de type ensorcellement, de type punition divine, etc. On est dans ce registre-là. En même temps, si on veut lutter contre une épidémie, il faut savoir où sont les cas. Et donc, il faut la collaboration. Une épidémie, c'est la transmission, il y a démos dedans la population, c'est la transmission d'une maladie dans la population. Si la population ne participe pas à la lutte, eh bien, l'épidémie peut continuer à se propager. On ne peut lutter contre une épidémie qu'avec l'aide de la population. C'est valable aussi pour la Covid, par exemple. Et c'est un des problèmes qu'on a pu avoir, cette défiance vis-à-vis des autorités. Donc ce qu'il faut à tout prix, c'est inspirer la confiance. C'est beaucoup plus compliqué quand il s'agit d'une maladie où les personnes sont amenées à l'hôpital et ne reviennent pas. Donc il y a un problème de communication, il y a un problème d'obtenir l'adhésion des leaders d'opinion à l'intérieur des communautés, à l'intérieur des villages. Et ça... pris dans ce démarrage d'épidémie, au moins pendant les premiers mois, les différentes interventions n'ont pas toujours pris en compte cet aspect-là, d'où la création d'abord d'un climat de défiance, puis de franche hostilité vis-à-vis des interventions. Et d'un point de vue bilan, la première chose, c'est le nombre de cas. On est plutôt à 28 000 et quelques cas, 12 000 morts, 11 000 et quelques morts. Beaucoup en Sierra Leone et au Libéria, un peu moins en Guinée, qui s'en sort un peu mieux que les deux autres pays. À ces morts, il faut rajouter les orphelins. L'UNICEF a estimé à 16 000 orphelins, soit qui ont perdu leur père, soit leur mère, soit leurs deux parents. Donc ça fait beaucoup de cas. Il y a les survivants, jusqu'à presque 20 000 survivants, qui, pour beaucoup, présentent des signes soit d'ordre psychiatrique, soit d'ordre plus somatique, des atteintes cérébrales, des atteintes oculaires, des atteintes cardiaques, des atteintes articulaires. Enfin, vraiment, c'est des personnes qui ont du mal à se réinsérer et qui, d'ailleurs, sont souvent stigmatisées. Les morts, les orphelins, les survivants, et puis l'impact sur plus global, cet impact est considérable. Au début de l'épidémie, les trois pays avaient un produit intérieur brut en gros de 2 dollars par habitant et par jour. Le Liberia est descendu un peu en dessous de 2 dollars et n'arrive pas à décoller. Quant à la Sierra Leone, il y a eu une chute et ils sont encore 30% en dessous de ce qu'ils étaient avant. Donc c'était déjà des pays très pauvres. Ils ont stagné, voire régressé fortement. Donc un impact extrêmement important, à la fois individuel et collectif, sur la santé économique de ces pays.
Avec cette terrifiante épidémie d'Ebola, les progrès médicaux vont faire un bond important. Des avancées néanmoins insuffisantes pour enrayer de nouvelles émergences d'Ebola quand le contexte humain sur place ne permet pas l'accès aux soins.
Avec l'épidémie d'Afrique de l'Ouest, les recherches ont largement été démultipliées. On sait que c'est vraiment un virus apparenté à Ebola Zaïre. Donc beaucoup d'argent et finalement des résultats assez maigres. On n'a toujours pas trouvé de chauve-souris porteuse de notre Ebola Zaïre, qui est quand même le virus Ebola le plus problématique, celui qui a fait la grande épidémie, en particulier en Afrique de l'Ouest. Donc ces recherches, peu fructueuses, c'est le moins qu'on puisse dire.
Quatrième épisode, Ebola aujourd'hui.
Par contre, là où on a des progrès, d'abord dans la vaccination, les vaccins, les médicaments, en fait, apparaissent vers la fin de l'épidémie en Afrique de l'Ouest, parce que jusque-là, les moyens n'étaient pas mis. Et quand en 2014, l'épidémie explose, à ce moment-là, il y a une espèce de course contre la montre. Et en 2015-2016, il commence à y avoir quelques moyens. Il y a eu des essais vaccinaux qui commençaient à donner des résultats. Et maintenant, dans les épidémies d'Ebola, parce qu'il y en a toujours, on utilise le vaccin au moins dans ce qu'on appelle une vaccination en cordon. C'est-à-dire on vaccine les gens en contact du cas investigué et les gens en contact avec ces contacts. Donc on fait une espèce de cordon sanitaire basé sur la recherche des contacts. On a donc cette possibilité et ça semble fonctionner très bien avec une efficacité proche de 100%. Dans ce cas précis, il semble que le vaccin empêche la maladie. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on veut, sinon il y aurait une contamination. Donc, cette vaccination au cordon, elle est là normalement pour arrêter la transmission. Donc, on a ce premier outil. On a un deuxième outil. Il y a maintenant des traitements basés sur des anticorps qu'on fabrique et qui permettent de neutraliser le virus Ebola Zaïre. Donc, ces traitements peuvent être donnés et diminuer la mortalité. Ça a été mesuré de manière scientifique avec en essayant différents types de traitements. Ces anticorps ciblent un variant d'Ebola. C'est pour ça que, quand je dis il y a plusieurs virus Ebola, ça a une importance, parce que si on est atteint d'Ebola Soudan, eh bien, le traitement n'est pas efficace, parce que l'immunité croisée est faible. Donc là, c'est efficace sur le variant Ebola Zaïre, ce qui est quand même celui qui a donné les plus grosses épidémies. Troisième progrès, c'est la manière dont on va hospitaliser les patients qui ont Ebola. Une ONG qui a une forte composante scientifique, s'appelle Alima, a conçu des systèmes qu'ils appellent des cubes. En gros, le malade est dans une pièce en plastique, en quelque sorte, transparente, un plastique souple. Il y a possibilité déjà de faire des soins depuis l'extérieur. On n'est pas forcément obligé de rentrer à chaque fois. Et puis comme c'est transparent, on peut les surveiller facilement sans être forcément juste à côté d'eux. Et d'ailleurs, ça va avec un changement de paradigme qui s'est fait progressivement dans l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest, à savoir que on hospitalise non seulement pour isoler, mais on hospitalise aussi pour soigner. Et quand on soigne correctement un patient qui a une maladie à virus Ebola, ses chances de survie sont beaucoup plus grandes. Donc on s'aperçoit qu'il faut mettre des moyens et il faut faire des soins de qualité avec des perfusions, avec éventuellement mise en place de cathéters centraux, enfin des choses qui sont un peu de réanimation. C'est ce changement de paradigme qui est important. C'est cet ensemble qui devrait changer la donne. Alors je dis « je devrais changer la donne » parce qu'il y a quand même eu des épidémies d'Ebola depuis et on s'aperçoit que c'est pas si évident que ça. Alors, l'épidémie à laquelle je vais me référer maintenant, c'est une épidémie qui a commencé en 2018 en République démocratique du Congo. On est en 2018, on est toujours dans cette partie est de la République démocratique du Congo, dans une zone de guerre, dans une zone instable. Et à cet endroit-là, on a Ebola qui émerge dans un contexte d'insécurité. Et on va avoir à nouveau le même phénomène, pour des raisons différentes, mais on va avoir le même phénomène que ce qu'on a pu avoir en Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire une défiance, un refus de voir les équipes d'intervention arriver, des camps de traitement de choléra qui ont été attaqués, des soignants qui ont été tués. Sauf que là, c'est encore plus dommage parce que on a les outils pour soigner, on a les outils pour protéger. La vaccination en cordon est difficile, extrêmement difficile à mettre en œuvre si les malades sont cachés. Et les traitements marchent pas mal, mais à condition de les appliquer très tôt. Et si on met 5 jours, 6 jours pour accéder à un centre de soins, eh bien c'est trop tard. On va avoir une létalité qui reste importante. Et paradoxalement, cette épidémie d'abord a été importante, plus de 3000 cas. Elle a duré longtemps, elle s'est étendue, elle a été extrêmement compliquée à combattre. Elle a nécessité des moyens aussi importants, parce que là, pour le coup, il y a mobilisation de moyens. On n'est pas loin du milliard de dollars pour lutter contre cette épidémie. Malgré tout, plus de 3000 cas, plus de 2000 décès, une létalité de l'ordre de 67-68%, ce qui est bien pire que ce qui s'est passé en Afrique de l'Ouest. Mais il y a de toute façon un lien majeur avec la défiance et avec la difficulté de faire passer les messages et d'obtenir la confiance de la population. Mais petit à petit, l'épidémie a été résorbée et depuis 2020, on a réglé le problème. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres épidémies. Il y en a eu une en 2022 en Ouganda. Pas de bol, c'était de l'Ebola Soudan. Donc, une partie des outils disponibles n'est pas efficace. Mais il semble que là, ils ont réussi à maîtriser l'épidémie assez rapidement. Mais quand même, finalement, on n'a pas totalement réglé le problème d'Ebola. Même en ayant des moyens thérapeutiques qui pourraient encourager les gens à aller se faire soigner, même en ayant un vaccin qui pourrait limiter la contamination, on reste à faire face à des épidémies qui peuvent être extrêmement meurtrières. Une des conséquences des maladies à Ebola, en dehors des morts et des orphelins liés au virus lui-même, est que les systèmes de soins, et ça s'est énormément vu en Afrique de l'Ouest, ont été complètement déstabilisés. Le nombre de consultations pour d'autres maladies a chuté. C'est lié au fait que les malades avaient peur d'aller dans les centres de soins. Mais aussi les soignants avaient peur de continuer à être au contact du public. En plus, un certain nombre étaient morts, parce qu'il y a quand même une mortalité très importante. Pour donner un chiffre, à peu près 20 fois plus de risque de mourir quand on est soignant dans une épidémie d'Ebola comme en Afrique de l'Ouest que pour le reste de la population. Et le risque maximum, c'est ceux qui travaillent avec les prélèvements, où le risque est là, le sur-risque est de 40 fois plus. Donc, moins de soignants, des personnes qui vont se cacher un peu. Donc ça déstabilise les systèmes de santé, mais les patients aussi ne veulent pas y aller. Et les conséquences sont probablement aussi importantes du fait que les consultations prénatales ne sont pas faites. Les vaccinations ont chuté pendant la période d'Ebola en Afrique de l'Ouest. Vaccinations contre la rougeole, vaccinations qui sont faites aux enfants sur la diphtérie, tétanos, polio, etc. Ça a chuté. les traitements de paludisme ont chuté, les consultations pendant la grossesse ont chuté, les accouchements sécurisés ont chuté. Donc tout ça a entraîné une baisse du système de soins et très certainement une surmortalité qui est difficile à mesurer et qui vient s'ajouter avec l'appauvrissement. Et donc, je ne serais pas surpris de voir une mortalité plus importante dans les années qui viennent sur ces pays, en particulier la Sierra Leone et le Libéria. Ebola est en même temps, si on prend l'échelle mondiale, une maladie qui regroupe un nombre qui reste limité de patients. On va dire 35 000 patients, un peu plus de 15 000 morts. Au même moment, dans les pays qui avaient été atteints par l'épidémie d'Ebola d'Afrique de l'Ouest, il y a eu autant de morts par tuberculose dans l'année 2014, même plus que par Ebola. C'est donc pas la maladie qui tue le plus d'un point de vue global. Par contre, la maladie elle-même, quand on l'attrape, elle est extrêmement meurtrière. Donc c'est la létalité qui est importante. La manière dont on meurt est quand même très inquiétante. Et le fait qu'on meurt de trop aimer ses proches, on resterait à distance, serait quand même quelque chose de plus facile. Et c'est très compliqué de dire à une maman de ne pas s'occuper de son enfant ou de rester au maximum à distance. Et c'est très difficile de dire à une famille de ne pas rendre les hommages aux morts de la manière dont ils l'ont toujours fait. Et puis, il y a quelque chose qui est très à la mode, c'est cette crainte des pandémies, l'idée que les choses sont liées, et là on a les choses sont liées, on dit une seule santé, one health, disent les Anglais, on a tout, on a les chauves-souris comme source, on a des mécanismes de transmission à l'homme, on a des conditions sociales, les conditions anthropologiques de transmission, on a une réponse qui n'est pas que médicale, qui était même de manière très minoritaire médicale jusqu'à il n'y a pas longtemps. Et donc cette histoire-là a bien excité les imaginations du grand public, mais peut-être aussi des chercheurs qui ont mis en avant et parlent de déforestation, de maladies liées à la déforestation. Quand on entend ça, on l'a beaucoup entendu pour la Covid. Avec la Covid, ça tient pas vraiment la route. C'est pas un problème de déforestation, une émergence dans une ville de 10 millions d'habitants comme Wuhan. Et la source, ce sont des grottes. Donc, la forêt là-dedans, non. Il y a des chauves-souris, mais il n'y a pas de forêt. Donc, si on parle de déforestation comme point de départ des pandémies, eh bien, ce sont ces épidémies, l'épidémie d'Ebola. On peut avoir aussi la rage avec les chauves-souris. On peut avoir d'autres virus. Mais là où il y a le plus de morts, c'est Ebola. Et donc c'est vraiment quelque chose qui à la fois va plaire aux journalistes, à la grande presse, au grand public, mais va beaucoup plaire aussi à certains scientifiques mettant ça en avant pour dire il faut aller au devant des épidémies, aller chercher tous les virus, les caractériser. Ça présente quand même un certain danger. Je rappelle quand même ces personnes contaminées au Royaume-Uni en 1976 et puis en Russie, à plusieurs reprises, en 1990, 1996, 2004. Là, il y a quelque chose à réfléchir sur la manière d'aborder les épidémies. Et finalement, le dernier point qui me paraît intéressant dans cette histoire, c'est que même si on a un traitement, même si on a un vaccin, si on n'a pas la confiance, si on n'a pas l'adhésion des populations, eh ben, on n'y arrive pas toujours. Donc, il faut vraiment cet ensemble de choses pour que on puisse maîtriser et finalement tuer dans l'œuf ces épidémies. Parce que pour le coup, je ne vois pas comment on va maîtriser le réservoir, c'est-à-dire ces millions de chauves-souris. Il y a plein d'espèces qui vont migrer. On n'a aucune chance de maîtriser ça. Par contre, détecter à temps et avoir la confiance des populations pour leur proposer une prise en charge, on va dire, de l'épidémie, c'est-à-dire prise en charge des malades, prise en charge des familles, prise en charge de la communauté, la solution se trouve là. Et on a du mal à avancer vers ce type de solution. C'est difficile d'obtenir des financements pour qu'il y ait cette surveillance et cette présence régulière d'équipes, y compris quand il ne se passe rien, mais justement pour contribuer à la fois à la surveillance et à la confiance.
C'était Mécanique des épidémies, 8e saison, Ebola, avec l'épidémiologiste Renaud Piarot. Réalisation Charles Trou. Conseillère au programme, Camille Renard. Avec la collaboration d'Élodie Piel. Prise de son, Bruno Mourlan. Mixage, Élise Leu. Archivina, Clary Monac. Retrouvez l'intégralité des saisons précédentes de Mécanique des épidémies, choléra, sida, grippe, Covid, palu, peste, sur franceculture.fr et l'application Radio France.